Alors, comprenons cela. La volonté de Dieu, même quand elle nous refraîne, c'est pour notre bien. Parce qu'on est assez imbécile, comme le disait notre sœur, pour creuser notre fosse. Hein? Il y a des gens qui vont vers l'éternité en faisant des bons. Ils y vont pas au pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait décidé dans son cœur de cesser de fumer. Aujourd'hui, il m'a dit ce matin. Eh bien, je voudrais que vous priez pour lui. Je n'ai pas à vous dire son nom, mais priez pour quelqu'un qui a compris que, au fond, il doit arrêter de fumer. Alors, je suis sûr que sa santé aussi s'en ressentira. Et je crois que c'est Jacques, tu as quelque chose là-dessus. Hein? Tu as un document là-dessus. Il y a un document formation pour cesser de fumer progressivement. Alors, je te mettrai en contact avec notre ami, hein, pour que ça puisse peut-être l'aider. Mais si tu comptes sur le Seigneur, il peut te délivrer de cette habitude, puisque on sait bien que c'est cancérigène, non seulement pour soi, mais pour l'entourage. Alors, nous voulons être des corps qui soient des temples du Dieu vivant et des temples du Saint-Esprit. Alors, de quelle manière, la deuxième question, trouvons-nous au monde que notre vie est entièrement renouvelée? Est-ce qu'il y a un groupe?
J'aimerais parler.
Oui,
madame. Une autre question plus tard, s'il vous plaît, le sixième, mais je parle.
Oui.
Le sixième, l'autre parle.
Alors, ils sont gentils, hein, vraiment c'est fraternel.
Bon, alors, en ne se conformant pas au siècle présent.
Oui, bien sûr, c'est clair, hein, c'est de ne pas se conformer au siècle présent. Mais alors, qu'est-ce que nous voyons? La mode, hein, il faut toujours qu'on suive absolument la mode. Puis ça dure combien de temps? Ça dure pas longtemps, puis c'est souvent excentrique. Alors une fois vous avez les jupes comme ça, une fois vous les avez comme ça. Ça c'est pour les dames, mais pour les hommes c'est pas mieux. Parce qu'on a autant à revoir chez nous que chez nos sœurs. Alors vous voyez maintenant ce que j'aime beaucoup dans cet épître aux Romains, il nous montre comment le croyant, dans la position de membre du corps, comment il doit être dans la maison de Dieu. Puis ensuite, dans le chapitre 13, alors on voit comment il doit être dans le monde, vis-à-vis des autorités. Il doit être soumis aux autorités, puisque toutes les autorités viennent de Dieu. Dans le chapitre 13 des Romains, c'est l'application pratique de notre vie dans le monde, avec nos relations avec les autorités. Mais ici, c'est dans le corps. Hein? Car par la grâce qui m'a été donnée. Donc vous voyez, il est conscient, Paul, qu'il a reçu la grâce. Je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée, une haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, vous voyez ici le mot foi, comme on va le voir encore plus loin, c'est pas simplement la foi qui sauve, il y a plusieurs sens à la foi. La foi, c'est un don de Dieu. C'est une grâce qui nous est faite et qui nous fait accepter comme étant de Dieu le témoignage de l'Écriture. La foi, c'est la croyance qui repose sur un témoignage. Alors la foi peut être divine ou humaine, suivant l'autorité du témoignage. Si j'écoute simplement ce que les hommes me disent, j'ai une foi humaine, je crois à ce qu'ils disent. Mais si je peux dire que c'est Dieu qui parle, alors j'ai une foi divine. Comprenez-vous? Alors, si je crois ce que Dieu me dit au sujet de son fils, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis sauvé. C'est la foi qui sauve. Je suis sauvé. Mais, ici, nous apprenons que la foi a une autre signification. Et elle représente, comme je le disais déjà ce matin, l'ensemble des vérités chrétiennes. L'ensemble qui nous a été révélé de toutes les vérités. Cette foi qui a été enseignée au saint une fois pour toutes. C'est les vérités du christianisme. C'est un des sens que peut avoir le mot foi. Mais aussi, ici, on voit que Dieu nous donne une certaine mesure de foi. Ce n'est pas la foi qui sauve. Ici, c'est une foi qui peut augmenter. Et Jésus l'a montré quand il a dit à ses disciples qu'ils étaient des hommes de peu de foi. Et les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi est susceptible d'augmenter. Elle peut être petite, mais elle peut être aussi grande. Et la foi peut être grande, même chez une païenne, puisque Jésus souligne la foi d'une cananéenne. Je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. Elle était rebutée par les disciples, et pourtant elle persévérait en disant au Seigneur d'avoir pitié d'elle et de sauver son enfant. Et qu'est-ce que le Seigneur répondait? Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Est-ce qu'elle a été offensée? Non. Elle a été même plus bas. Elle a dit oui, mais même les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors quand Jésus voit ça, ben lui aussi son cœur éclate. Et il dit, je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. Donc s'il a éprouvé la foi de la païenne, c'était pour lui donner l'occasion de manifester d'une façon plus merveilleuse sa foi et d'être un exemple pour ses disciples, hommes de peu de foi. Donc il y a là une mesure de foi. Alors la foi de la païenne, là, elle était très grande. Et cette mesure de foi, ben, il l'a départie à chacun, comme il a fait des dons à chacun, à tel, un tel, il donne tel don, à un autre tel don. Et puis, là, c'est cette foi, le don de la foi dont nous avons déjà dit quelque chose, la manifestation des dons spirituels, et parmi les dons spirituels, il y a la foi. La foi du chapitre 12, la première aux Corinthiens, c'est pas la foi qui sauve. C'est la foi qui est donnée à certains membres du corps de Christ pour faire, pour accomplir des œuvres que d'autres ne sont pas appelés à faire. Comprenez-vous? Et si moi, je veux dépasser ma mesure de foi, eh bien ce sera l'échec. Si j'y vais avec mes bonnes intentions, avec mon bon vouloir, en me disant, eh bien, tel homme à tel endroit, il a fait une œuvre fantastique, moi, je vais l'imiter. Est-ce que c'est ça que Dieu me demande? Non, parce que je risque de bâtir quelque chose par mes propres efforts, et puis au bout de peu de temps, c'est l'échec. Et il y a un tas d'œuvres qui se disaient être de Dieu et qui sont en faillite. Vous croyez que l'œuvre de Dieu est dans le rouge?
Non.
Pas possible. Quand c'est Dieu qui est là, eh bien, il donne le nécessaire. Il donne le nécessaire. Je ne dis pas que nous pouvons capitaliser ces passes-là, mais il donne le nécessaire. Mais quand on crie tout le temps pour demander de l'argent, alors qu'on a tellement vomi sur l'église romaine, au sujet des messes et des paiements et de tout ça, et qu'aujourd'hui vous recevez des foules de lettres, du bon papier, tout ce que vous voulez avec le timbre, et qu'on nous demande d'envoyer des chèques post-datés pour 2 ans à l'avance, parce qu'on veut nous faciliter tellement, parce qu'on est tellement oublieux, et qu'on nous demande 10, 15, 20, 50, 100 si vous le pouvez, par mois, vous croyez que c'est l'œuvre de Dieu ça? Je ne veux pas être jugé, Mais je dis que ce que je vois dans l'Écriture, c'est que quand on a des besoins, on en parle à son Dieu dans son cabinet. J'ai pas dit dans les WC, hein. Dans sa chambre, on ferme la porte sur soi. Oh, ça peut être aussi dans les WC. On peut y prier, là. Hein. Mais, enfin, on ferme la porte et on expose à Dieu la requête. C'est un besoin tout à fait particulier. Et c'est pas pour soi qu'on demande, mais c'est pour pouvoir accomplir certaines œuvres, comme Paul le faisait. Et puis voilà, le Seigneur donne ce qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça crée en nous? Ça nous montre qu'on a un Dieu vivant et qu'on est dans son chemin. Quand on lui a parlé d'une chose et qu'il répond d'une façon vraiment merveilleuse, alors nous avons un témoignage à la gloire de Dieu. Et on ne se plaint pas toujours. J'ai entendu tant de jeunes qui m'ont dit « Oh, mais moi, j'ai vécu, mon père était pasteur, et on a toujours tiré le diable par la queue. » Ben, écoutez. C'est tout ce qu'ils avaient dans cette église? Des enfants qui trouvaient que leur père tirait le diable par la queue? Comment voulez-vous qu'il y ait une autorité? Mais voyez-vous, on a besoin de nous réformer, de revenir à cela. Vous me direz, mais ça c'est un saut dans le vide. Je voudrais quand même bien avoir des assurances. Hein? Avoir des assurances sur qu'on peut compter. Mais lui n'est-il pas votre assurance? Vous me dites, mais alors c'est le saut dans le vide. Mais au-dessous de vous sont les bras éternels. C'est parce que tu n'as pas sauté que tu ne connais pas les bras éternels. Il est au-dessous de vous. C'est nous qui sommes toujours trop haut. Alors si ça va mal, c'est qu'on est trop haut. Quand on est en bas, on ne peut plus nous y mettre, de toute façon. Vous comprenez? Alors on ne risque pas de se casser un membre. On ne peut plus nous y mettre, on y est. Mais qu'est-ce qui peut nous arriver? Dieu, dans sa miséricorde, il fait lever de dessus le fumier le misérable. Hein? Et il le met où? Sur un rocher que je ne pouvais pas atteindre. Vous connaissez la parole? Mais c'est ça qu'elle dit. Mais il ne faut pas que ça reste dans les couvertures noires ou rouges ou bleues. Et, oui, il y en a une rouge ici. Mais il faut que ça soit en vous. Je me souviens toujours de cette femme qui me disait en Suisse, dans une retraite qu'on avait, elle avait voulu un entretien particulier, puis elle disait, il y a un habit montre ce que je suis et ce que je voudrais être. Puis j'ai dit, comment voyez-vous cet habit? Puis elle dit, bien, je vois le Seigneur au sommet de la montagne, n'est-ce pas? Puis moi, je suis tout au bas, je suis dans la vallée, puis j'essaye de monter, et puis je m'essouffle, puis je retombe, et puis je redescends, je fais quelques pas en avant, alors voilà, les retraites, oui, nous aident à faire quelques pas, puis après, voilà, on descend. Alors on attend l'autre retraite, pour regonfler la batterie, comme vous dites. C'est épouvantable, ce langage, là, bon. Alors, nous sommes des boosters, là. Vous parlez français? On va vous booster? Parce que si ces retraites étaient que pour vous booster, ben ça, il faudrait qu'elles finissent. Il faut que vous sachiez que le Seigneur va vous renouveler de jour en jour. Il ne va pas vous donner de la force pour demain. À chaque jour, suffit sa peine. Vous avez assez aimé un jour à la fois. Eh bien, mettez-le en pratique. Chantez cela. Un jour à la fois, oui. Dieu vous donnera la force demain matin pour les circonstances de demain. Mais il ne nous donne pas la force pour une semaine à l'avance. Il ne nous donne pas la force pour un mois à l'avance. Il nous donne la force pour la journée. Il marche de force en force. C'est cela que nous devons saisir. Et alors, nous sommes bénis. Donc, ne dépassons pas la mesure de foi, n'essayons pas de faire ce que les autres font, mais les autres font cela, mais moi je m'en vais faire la même chose. Ayons affaire avec le Seigneur, et vous verrez qu'il est un Seigneur vivant. Car, verset 6, verset 4, comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, vous voyez qu'il n'est pas demandé à tous de faire certaines choses. Ainsi, nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Si le Seigneur m'emploie, eh bien, je le bénis, mais c'est pour votre bien. C'est pas pour moi. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, mais vous voyez, c'est toujours la grâce, soit la prophétie, ce que nous verrons demain, prophétisons, selon la proportion de foi, ou selon l'analogie de la foi. C'est pas une prophétie qui va vous révéler des choses nouvelles. Elle va vous révéler, elle va mettre en lumière ce qui est dans l'Écriture. Vous n'allez pas sortir de l'Écriture. La prophétie, c'est une lumière qui vient du cœur de Dieu pour le temps présent, mais qui éclaire le texte biblique. Et alors tout à coup on dit, mais comment est-ce que je n'ai pas compris cela? Et c'est cela justement, les dons spirituels, le don de prophétie est donné dans l'Église pour que nous puissions comprendre les richesses qui se trouvent dans la parole. Et c'est un don qui nous édifie. Pourquoi est-ce que les gens sont si faibles et ils ne sont pas fortifiés? Ils sont détruits alors qu'on devrait être construit, on devrait être bâti. Le don de prophétie en 1991, c'est un don qui bâtit les âmes, qui fait des vrais hommes et des femmes de Dieu. C'est un don qui exhorte les âmes, parce que nous sommes trop portés à nous endormir. Et la prophétie nous exhorte, en nous montrant que nous avons peu de temps, et en nous rappelant les choses qui vont arriver. Et puis, la prophétie, elle nous console, parce que nous sommes dans un monde où il n'y a que tristesse et difficulté, et alors elle nous fait connaître les vraies consolations de la parole. Et voyez-vous, la source de notre consolation, c'est l'Écriture sainte. Regardez, dans le chapitre 15 des Romains, il est dit, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir un même sentiment. Et avant, il a dit, toutes les choses, verset 4, qui ont été écrites auparavant, ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Comprenez-vous? Mais si on ne les lit pas, on n'est pas consolé. Mais quand on les lit, alors on est consolé. D'abord parce qu'on voit des vies d'hommes qui ont été dans la difficulté et qui n'ont pas capoté. C'est vrai ou c'est faux? Ils n'ont pas capoté. Ils se sont tenus debout, comme vous aimez à dire. Se tenir debout. Mais pourquoi? Mais parce que le Seigneur nous tient debout. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce, on exerce son ministère, soit le service. Soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité. Et cette traduction, qu'est-ce que vous dites dans second? Avec joie, n'est-ce pas? Simplement, avec joie. Pouvoir exercer, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, hein? Oui. Et puis on peut demander aussi au Seigneur pour qu'on puisse pouvoir donner. Celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Et vous voyez, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Donc tous sont exhortés. On a des exhortations pour tous. Et que celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse
avec joie.
Avec joie. Celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. Heureux de pouvoir aider. Et puis, que celui qui préside, le fasse avec zèle. Hein? qu'il y soit, être présent. Alors là, on s'arrête sur les Romains. On a encore quelques minutes. Vous voulez qu'on s'arrête un instant avant de prendre un mot sur les Éphésiens? Vous voulez changer de position? Répondez à la question 3. Combien de dons de grâce l'apôtre énumère-t-il dans le chapitre 12e? 7, bravo. Et 4, dans quel esprit devons-nous exercer le don que nous avons reçu gratuitement? En se glorifiant? Non. Dans l'humilité. Alors, on tombe en plein dans l'Épître aux Éphésiens. Quand Paul a écrit l'Épître aux Romains, il n'était pas allé encore à Rome. Il désirait aller à Rome. Et il désirait y aller pour y annoncer l'Évangile. Mais c'était des chrétiens déjà. Hein? Mais vous voyez que l'Évangile, c'est pas ce qu'on croit, le petit salut, hein? Au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. L'Évangile, c'est tout le conseil de Dieu. Et il désirait y aller pour leur communiquer quelques dons de grâce. On a toujours besoin de recevoir davantage. Alors, il a écrit son épître aux Romains. Mais maintenant, l'épître aux Éphésiens, il est à Rome. Mais où? En prison. Et qu'est-ce qu'il leur écrit? Au chapitre, qu'est-ce que j'ai demandé de lire le chapitre 4, hein? Mais vous voyez que c'est toujours la même pensée. Je vous exhorte donc, moi, et c'est tellement beau, le prisonnier de César. Non! Qu'est-ce que César a à faire là-dedans? Il a seulement payé le voyage. Parce qu'il a été aux frais du gouvernement. Comme prisonnier, hein, le voyage était payé. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé, avec toute humilité et douceur. Qu'est-ce qui a manifesté l'humilité et la douceur? Jésus, il était doux et humble de cœur. Avec patience, vous supportant l'un l'autre dans la colère, dans l'amour. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est toujours ce que nous devons avoir devant les yeux. Vous voyez, c'est un enseignement qui est constant. Alors, continuons dans ce don. Il y a un seul corps. Et c'est de ce corps qu'on fait partie. Et un seul esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Hein? Et si c'est l'Esprit de Dieu, comme on le verra dans les prophéties que nous allons voir demain, c'est une vérité qu'on peut contrôler. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voilà, c'est les bases de l'unité. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas un Seigneur pour telle église, puis un autre pour une autre. C'est un seul Seigneur. Et alors, si on le reconnaît comme Seigneur, eh bien, on cherche à marcher dans ses traces, pour lui plaire. Il y a une seule foi. Alors là, c'est la foi qui a été révélée aux saints, une fois pour toutes, une seule foi. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas plusieurs baptêmes, mais dans l'histoire ecclésiastique, eh bien, on a divergé sur certaines choses. Mais il faut quand même toujours considérer qu'il y a un seul baptême. Et quand je vois quelqu'un qui est troublé parce que justement on l'a baptisé enfant pour certaines raisons ou par tradition simplement, comme si c'était le baptême qui allait opérer la nouvelle naissance, alors que c'est l'œuvre de Christ qui l'opère. Mais quand on nous demande le baptême par immersion, je ne dis pas que c'est un autre baptême. On a trouvé dans une nuit de prière, pour justement qu'il n'y ait pas de confusion, cette formule, parce que même dans l'Église romaine, beaucoup comprennent que, au fond, on a fait la profession chrétienne par le baptême. On a baptisé depuis Constantin, dans les États, Constantin devenant chrétien, les États deviennent chrétiens, alors on leur donne le signe du baptême. Mais on se rend compte que les gens baptisés ne sont pas des croyants, bien souvent. Mais ils sont baptisés par tradition. Deux sœurs ici même m'ont dit, faites cesser ce folklore. Faites cesser, comment? Ben, si vous voyez des hauts placés dans l'Église romaine en allant en France, parlez-leur de ça. Il faut qu'il y ait un changement en haut, pas seulement à la base. Parce qu'il y a des prêtres qui souffrent et qui pleurent quand on voit jamais ces gens à l'église, mais le jour du baptême, on amène le petit bébé, là, tout en fleurs. J'ai rien contre sa petite robe, mais enfin, le prêtre dit, mais pourquoi voulez-vous le faire baptiser? Hein? Vous voulez nous refuser le baptême? Vous aurez nos nouvelles. Téléphone à l'évêque, si on déplace le prêtre. Vous comprenez, il y a la souffrance, mais il faut comprendre cette souffrance. Il y en a qui luttent, il y en a qui ont compris certaines vérités. Et je me souviendrai toujours de cette demande de plusieurs prêtres quand j'allais partir pour l'Europe il y a quelques années, qui m'ont demandé de présenter ça. Enfin, je leur avais raconté ce qu'on avait fait au camp Mahanaïm. Voilà des catholiques qui disent, jusqu'à présent, j'étais un mauvais catholique. Mais voilà. Je voudrais rendre témoignage d'abord de mon Église. Mais j'ai compris que mes parents, et non pas même la foi, ils m'ont baptisé par tradition, donc je n'y étais pas, je n'ai pas pris d'engagement. Et puis plus tard, j'ai dit, mais tu as fait ton instruction religieuse, tu as fait ta confirmation. Je dis, mais je ne peux pas faire autrement, ça aurait été un scandale dans la famille. Alors j'étais bien obligé, mais il ne s'est rien passé. Il dit, c'est ici, c'est maintenant que je sais ce que c'est que le baptême. Alors je voudrais que vous me baptisiez. Bon, j'ai dit, moi, au camp Mahanaïm, ben, on n'est pas là pour baptiser, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser d'abord. Et puis je ne veux pas qu'on dise qu'on est une secte qui baptise. Alors il me regarde et il me dit, alors moi je suis plus malheureux que l'eunuque d'Éthiopie. Il y a de l'eau ici, un lac. Je ne voulais pas, j'ai compris que c'était une immersion. Mais moi, je ne voulais pas faire quelque chose légèrement. Parce qu'il me dit, je voudrais rendre d'abord témoignage. Je lui dis, ben, demande à ton curé de te baptiser. Oh, mais non, il ne fera pas un rebaptême. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, écoute, je vais prier. Je vais prier. Et c'est là que m'est venue cette formule. Sur ta demande, et après avoir entendu ta confession de foi, pour actualiser le sens profond du seul baptême biblique, je t'immerge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas un baptême protestant, un baptême évangélique après un autre baptême. Pour actualiser le sens profond du seul baptême biblique, je t'immerge sur ta demande. Je me suis dit, on verra s'il est d'accord. Mais une fois que le Seigneur me donne quelque chose intérieurement, ben, on peut me couper la tête après. Mais avant, je ne fais pas. Et il faut une conviction. Alors, un jour, on m'a téléphoné pour que je parle au prêtre. Et je leur ai raconté cette histoire. Et j'ai été suffoqué. Mais depuis si longtemps qu'on cherche, nous. Mais on est d'accord avec ça, mais parle-en quand tu... Alors, j'en ai parlé à plusieurs. Un évêque en France qui m'a dit, je vous donne la main d'association. J'en ai parlé au cardinal Sinas en Belgique, alors lui, il n'a pas lu. Puis il m'a dit, mais c'est trop dangereux. Il m'a dit, pourquoi? Sur le fond, il était d'accord, au fond. Mais il me dit, les charismatiques de la Californie, ils ont compris aussi. Mais ils ont fait 3000 baptêmes, les catholiques, donc charismatiques, dans l'océan, mais avec la télévision, enfin je ne sais pas, tout ce que vous voulez, en grand. Alors évidemment, ça a fait du bruit, c'est allé jusqu'où? Jusqu'à Rome. Alors ça a fait un grand scandale. Mais est-ce que le baptême, c'est un show? Comprenez-vous? Il faut nous dépouiller de cela. Le baptême, c'est l'image de la mort du Christ. C'est pas un grand show. Comprenez-vous? Et alors, c'est parce qu'on veut tout faire, même spirituellement, on fait des shows. Et alors, bien voilà, on s'identifie au monde et on crée des obstacles. Je me souviens toujours de la sagesse du professeur Karl Barth, que je vous cite quelques fois parce que j'ai beaucoup aimé, qui a été chassé par Hitler, lui, et qui disait, il nous faut être très prudents, puis enseigner la vérité dans la charité, et puis faire comprendre le poids des choses aux gens, pour qu'ils sachent ce dont il est question. Et alors, évidemment, ce jeune homme, il me disait, si je m'en vais dans une église baptiste, on me dira, on te baptise, mais alors tu deviens baptiste. Il dit, mais moi, je ne veux pas être d'abord baptiste, je vais être chrétien. Alors je suis coincé, je veux être membre du corps de Christ. Mais pas tout de suite, j'aurai l'air de changer d'église, et je voudrais avoir une influence dans mon église. Et il avait réussi à réunir 15 personnes, puis ils sont arrivés jusqu'à 50, il a acheté 50 bibles dans son église, et le curé lui a dit, tu connais mieux la Bible que moi, maintenant je te laisse prendre cette responsabilité. Alors voilà, une autre façon de servir. Mais il me disait, jusqu'à présent, j'étais un mauvais catholique, je voudrais d'abord témoigner dans mon milieu. Alors, ça c'est à lui à savoir. Mais c'est pour vous montrer, il y a un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a la mesure du don de foi, hein, puis il y a la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre » Celui qui est descendu, c'est donc Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Qu'est-ce qui remplit toute chose? C'est le Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc les ministères, c'est des dons de Dieu. C'est des hommes aussi qui sont donnés par Dieu. Les uns, il les a donnés comme apôtres, les apôtres dont nous connaissons les noms, qui ont fondé l'Église. Les autres comme prophètes. L'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et les autres comme évangélistes, ceux qui vont porter l'Évangile au loin, dans le monde. Les autres comme pasteurs, ceux qui s'occupent du troupeau pour l'édifier. Les autres comme docteurs pour l'instruire dans les fondements de l'Écriture. Et tout cela, ces dons, on a vu les manifestations de l'Esprit, mais cela, maintenant, c'est les ministères, ça a été donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce que je vous disais hier en prenant dans la Genèse les jours de la création, Dieu poursuit son œuvre, et comme il a poursuivi son œuvre dans la création pour l'achever, il poursuit son œuvre dans chacune de nos âmes, et voyez-vous, nos divergences de vue, bien souvent, viennent de ce que nous ne sommes pas encore parvenus à cette unité de la foi et de la connaissance. Il y a des gens qui en connaissent moins, il y en a qui connaissent plus. Mais alors, c'est pas cela qui doit nous séparer. Il y a des enfants dans une famille, il y a des adolescents, il y a des hommes faits. Ce qui nous sépare souvent, c'est qu'on n'a pas le même degré de connaissance. Alors, soyons charitables. Et puis, si nous croyons avoir de la connaissance, quand nous voudrions la passer à d'autres, n'essayons pas de les éblouir, mais de les éclairer. Mettons notre connaissance à leurs pieds, non pas dans leurs yeux, parce qu'on les éblouit. Ce que je dis souvent, baissez vos phares quand vous croisez une âme. Parce que ça, vous ne la rapprochez pas du Seigneur en l'éblouissant par vos lumières. Vous risquez de la mettre dans le fossé. Il faut être humble. La lumière, elle est pour éclairer sur le pas, pour vous montrer les fondrières, pour vous montrer les obstacles. Soyons humbles si nous voulons servir le Seigneur. Et ainsi, nous ne serons pas des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, dans la charité, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. En qui devons-nous croître? En le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Si c'était cela, nos communautés, vous verriez qu'il y aurait de la vie. Mais bien souvent, on est tombé dans le cléricalisme, on a mis un homme à la tête d'une communauté, puis alors ça fait une grosse tête, un tout petit corps. Tandis que... c'est vrai ou c'est faux? Alors, il doit tout faire. Ben, bien sûr qu'il est débordé, puis il est crevé. Or, on n'est pas crevé au service du Seigneur. On est renouvelé. Mais, il ne faut pas ignorer les autres. Il nous faut reconnaître qu'il y a des dons dans le corps de Christ. Et que c'est dans cette liberté de l'esprit, non pas dans l'anarchie. Il faut faire attention à cela. Mais, quand c'est vraiment l'esprit, ben ça peut être merveilleux. Puis alors on reçoit de l'un, on reçoit de l'autre. Je voudrais bien qu'on arrive à cela dimanche. À ce que nous puissions recevoir les uns des autres. Moi je me taise, puis que je puisse vous écouter. Dans un culte, vraiment, où vous puissiez être libre d'apporter ce que le Seigneur vous aura donné dans sa dépendance. Dans ce samedi après-midi, 23 novembre 91, nous continuons donc le sujet, le don de prophétie exercé en accord avec la foi et les lectures que nous vous avons proposées et qui servent de toile de fond pour notre étude de cet après-midi. C'était donc Romains 12, versets 1 à 8 et Éphésiens 4, versets 1 à 16. Dieu notre Père, de tout notre cœur, nous venons te demander que tu nous bénisses dans cet après-midi et que nous puissions trouver de la joie dans ta parole, comme le disait le psalmiste, comme un homme qui trouve un grand butin, et que cette parole ne nous tue pas, mais nous fasse vivre. Car nous savons que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Alors nous te demandons de vivifier cette parole pour qu'elle pénètre dans nos cœurs. Nous te demandons des cœurs qui écoutent, parce que nous savons très bien que nous pourrions être dans cette salle physiquement, être tout ailleurs dans nos pensées. Alors nous te demandons que tu nous donnes la grâce comme autrefois à Lydie, cette marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui était au bord de la rivière pour entendre Paul, tu nous dis que tu lui ouvris le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Et nous savons qu'elle fut la première européenne à être convertie. Oh, que ta grâce soit sur nous et que nous puissions croire que ton esprit veut illuminer ta parole et nous donner non pas d'avoir certaines idées, certaines opinions, mais des convictions qui nous fassent vivre en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ce matin, j'avais à cœur, lorsque nous avons lu le chapitre 12, de m'arrêter sur un petit détail des premiers versets, et je crois que je vais quand même vous dire ce qui était sur mon cœur. Il est dit au chapitre 12, donc des Corinthiens encore, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, on l'a vu. Vous savez que quand vous étiez païens, c'est comme cela qu'a traduit Second. Darby traduit, vous savez que quand vous étiez gens des nations, et depuis que je suis au Québec, j'ai entendu bien souvent des personnes nous dire qu'ils étaient sauvés. Puis parlant de leur passé, ils disent toujours quand on était païen. Et ça m'a toujours heurté. Et je pense que quand vous allez dans vos familles et que vous leur dites quand nous étions païens, quand j'étais païen, comme vous, parce que peut-être vos parents ne sont pas dans un milieu évangélique. Alors ce sont des païens. Misère de misère. Si vous parlez français, ce qui est païen, c'est ce qui est relatif à une autre religion que le christianisme, le judaïsme et l'islamisme. Voilà la vraie définition du paganisme. Et vous savez que on peut être évangélique et passablement idolâtre. On n'a peut-être pas des statues à l'extérieur, on ne se prosterne pas devant ce qu'on appelle des idoles, mais on les a dans notre cœur. Alors, il faut faire attention à ce langage qui heurte. Un païen, c'est un idolâtre. Ça peut être un impie, un homme qui n'a pas de relation avec le Dieu révélé, le Dieu unique. Alors, ne dites pas en pensant à votre religion de naissance quand j'étais païen. Je voulais seulement vous mettre en garde à ce sujet. Parce que vous savez, on peut très bien être évangélique est drôlement païen. J'avais à cœur de vous souligner cela, parce que c'est un abus de langage. Et il nous faut veiller à ne pas être des idolâtres. Et cela, eh bien, ça peut se trouver chez des gens baptisés par immersion. comprenez-vous? Et qui sont idolâtres. Est-ce que j'invente des choses ou bien que c'est biblique? Je crois que c'est biblique. Chapitre 5 des Éphésiens. Que ni la fornication, ni aucune impureté, verset 3, ou cupidité, ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Cela en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur, ou impur, ou cupide, qui est un idolâtre. Vous voyez? Ça peut nous concerner. Ce n'est pas toujours les autres ou nos ancêtres, notre passé. Nous devons avoir du respect pour nos ancêtres, même s'ils n'avaient pas les lumières que nous croyons posséder. Et quand nous pensons que nous possédons beaucoup de lumières, il faudrait encore que ce soit vrai et que notre marche prouve quotidiennement que nous vivons dans la lumière. Parce que ces idolâtres-là, ils n'ont pas d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Alors, je vous le demande, si vous voulez le bonheur de parents qui sont proches, ne les appelez pas d'abord des païens. Soyez déjà reconnaissants de ce qu'ils ont pu vous donner, de ce qu'ils ont pu vous apporter. Et puis si vous, vous avez plus de lumière, eh bien que vous soyez tellement lumière dans le Seigneur qu'on désire marcher à la clarté de votre bougie. Parce qu'au fond, vous savez, nous ne sommes pas des grands spots. Alors, comment ont marché vos attelés? Vous êtes ennuyés? Vous êtes bagarrés? Vous avez opposé vos idées? Ou bien vous avez essayé de les réunir? Les réunir. Bon. Alors, demandons au groupe 5, peut-être, hein? Au sujet de la question, quels sont les vrais motifs de la consécration totale de nos vies à Dieu, selon Romains 12, qu'avez-vous répondu? Quel était le groupe 5? Oui.
Quels sont les vrais motifs de la consécration totale de nos vies à Dieu? Le Seigneur, dans cette miséricorde, nous a rachetés pour qu'on soit un peuple saint, pour le servir, être témoin à notre tour, pour remplacer son peuple d'Israël. Il est le Dieu vivant, et que si nous existons, c'est parce qu'il y a le Dieu vivant qui nous a acheté pour le servir.
Oui.
Et nous délivrer de la même manière de vivre que nous avions autrefois. Parce qu'il nous a acheté un grand prix, et c'est notre culte raisonnable de le servir en l'attendant.
Merci. Bien. Bien, vous voyez, quand nous lisons la parole, l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12, vous avez la partie pratique. Jusqu'au chapitre 11e, disons au chapitre, fin du chapitre 8e, parce que chapitre 9, 10 et 11 nous parlent tous particulièrement d'Israël. Mais dans l'Épître aux Romains, il y a une partie doctrinale. qui est composé donc de tous ces chapitres qui sont d'une importance capitale au sujet de notre salut, parce que cet épître aux Romains répond à cette question que se posait déjà le patriarche Job: comment un homme sera-t-il juste devant Dieu? Est-ce qu'on peut être juste devant Dieu par nos œuvres? Est-ce qu'on peut être justifié par nos bonnes œuvres?
Non.
Alors, comment peut-on être juste? La réponse de l'épître aux Romains, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est-à-dire, la foi croit ce que Dieu nous dit. La foi, c'est pas croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est une croyance tout à fait raisonnable. Il est raisonnable de croire que Dieu existe. La Bible dit que ceux qui nient l'existence de Dieu sont des insensés. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais il faut être insensé pour dire qu'il n'y a point de Dieu. Et s'il n'y a point de Dieu, d'où vient le monde, la nature, toutes ces choses que vous voyez? Alors vous devez remplacer Dieu par quoi? Par le hasard, et que sais-je encore, par la matière, toutes des choses qui ne peuvent pas satisfaire ni votre raison, ni votre cœur. Donc il est pleinement raisonnable de croire en l'existence de Dieu. Saint Augustin disait, nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qui n'existe pas. Et puis, Victor Hugo disait que nier Dieu, c'était un aveuglement et une folie. La Bible, qui domine les siècles, elle dit, nier Dieu, c'est être fou, c'est être insensé. Il est parfaitement raisonnable de croire qu'il y a un être supérieur qui a ordonné toute chose. Mais justement, si je crois en l'existence de Dieu, je ne peux pas vivre comme s'il n'existait pas. Si Dieu existe, il a donc parlé. Et la foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Mais pour croire ce que Dieu a dit, il faut lire la parole. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, dans l'épître aux Romains, vous avez les grandes vérités essentielles au sujet du salut, où il nous est montré que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous donne le salut par qui? Par son Fils, Jésus-Christ, mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Mais cette épître nous montre qu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous perdus. Que nous soyons juifs avec la religion qu'ils avaient, avec la loi, ou que nous soyons des païens qui n'ont pas eu de révélation, eh bien, juifs ou païens, tous sont coupables devant Dieu. Mais dans son amour, Dieu a donné et aux juifs et aux païens un sauveur. Et vous savez que juifs et païens réunis à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont su faire? En quoi ces gens qui se détestaient, juifs et romains, se sont-ils mis d'accord? Ils se sont mis d'accord pour quoi? Pour crucifier Jésus. Les juifs qui auraient pu se glorifier d'avoir un des leurs qui montrait vraiment l'exemple de ce que Dieu voulait d'un homme, eh bien, ils l'ont trouvé gêneur et ils l'ont livré à qui? Aux Romains, qui avaient le pouvoir de le faire mourir. Et les Romains, qui se glorifiaient d'avoir leur conscience pour guide, est-ce qu'ils ont écouté leur conscience? Dites-moi un peu. Pilate, est-ce que sa conscience a parlé? Oui, elle a parlé. N'ayez rien, et puis sa femme lui a aidé encore en lui disant, n'ayez rien à faire avec ce juste. Pilate était convaincu de l'innocence de Jésus. Mais, quand on lui a dit, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de son patron, César, hein. Il a eu peur, et par lâcheté, il le leur a, il l'a livré pour qu'il soit crucifié. Alors, c'est faux de dire que ce sont les Juifs qui l'ont crucifié. J'ai toujours dit, quand je fais une conférence parmi les Juifs, vous nous l'avez livré, et nous, les païens, nous l'avons crucifié. Donc, nous sommes tous coupables du plus grand crime devant Dieu, juif ou païen. Mais c'est faux de dire, les Juifs sont un peuple déicide, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Ils l'ont livré, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais les Romains qui se glorifiaient d'avoir la conscience pour les guider, ils n'ont pas écouté leur conscience. Alors, devant le Christ, c'est la faillite de la loi et c'est la faillite de la conscience. De sorte que, pour être sauvé, il ne peut plus s'agir que d'une grâce qui est faite aux uns et aux autres. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et alors, après nous avoir exposé ces vérités merveilleuses dans l'Épître aux Romains, dans la partie doctrinale, eh bien, au chapitre 12, on entre dans la partie pratique. « Je vous exhorte donc, dira l'apôtre Paul, je ne sais pas quelle version vous avez vous-même, je pense que c'est la seconde, hein? Alors on va lire dans la seconde. « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. » Où est-ce que nous avons vu les compassions de Dieu? Dans les chapitres précédents. C'est dans toute cette épître aux Romains que nous sont manifestées les compassions de Dieu, soit aux Juifs, soit aux païens. Alors, en réponse aux compassions de Dieu, eh bien, je vous exhorte à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part votre culte raisonnable, et notre version dit votre service intelligent, un vrai service pour Dieu, c'est la consécration de quoi? De notre corps, pas seulement de notre âme, et c'est cela que nous devons bien comprendre, car à la croix, le Seigneur a voulu non pas seulement sauver notre âme, mais aussi notre corps, même si nous n'avons pas encore maintenant la rédemption de notre corps, il a aussi acquis à son sacrifice sur la croix la rédemption de notre corps. Nous l'attendons, nous sommes sauvés en espérance. Mais un jour, notre corps, aussi bien que notre âme, connaîtra la plénitude du salut de Dieu. Il n'y aura plus d'infirmité par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le Seigneur, à sa venue, transformera notre corps d'humiliation en la conformité de son corps de gloire, nous dit Philippiens 3, verset 20, et nous serons rendus semblables à lui. Et les morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi au Seigneur, à ce moment-là, ils ressusciteront et dans des corps incorruptibles, alors qu'ils ont été semés corruptibles, dans des corps incorruptibles et glorieux, avec les vivants qui demeureront jusqu'à la venue du Seigneur, parce qu'il y aura une génération qui sera transmuée, qui entrera dans la gloire sans passer par la mort, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, non pas pour y flotter toujours, mais pour qu'il nous conduise dans les aimables demeures de la maison du Père qu'aucun astronaute n'a pu connaître, hein, parce qu'ils n'ont pas le corps de gloire pour pouvoir aller plus haut. Alors ils flottent. Ils vont déjà, ils sont arrachés à l'apesanteur, mais ils flottent. Ils ne peuvent pas s'arracher de cet état-là pour aller dans la maison du Père. C'est le Seigneur qui viendra à la rencontre et qui, ayant transformé nos corps, nous aurons vraiment la possibilité d'être avec lui et d'entrer dans ces aimables demeures de la maison du Père avec des corps qui seront des corps spirituels. Le naturel, ça sera fini et nous aurons des corps spirituels. Et qui est-ce qui va nous fournir ces corps spirituels? La puissance de Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur. C'est quelque chose de merveilleux et vous devez vous en imprégner. Alors, en attendant, puisque notre corps est déjà racheté, ce que nous avons à offrir à Dieu dans notre existence, c'est pas seulement notre âme, mais aussi notre corps, l'esprit, l'âme et le corps, comme vous l'avez dans le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, au verset 23. Que votre être tout entier, l'esprit, que personne ne voit, mais qui est invisible, mais qui est en communication avec Dieu qui est esprit, votre âme, c'est notre moi, notre personnalité, mais quand on est sauvé, ce n'est plus le moi, c'est Christ qui vit en moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas une amélioration de notre moi, c'est le renoncement à soi qui permet au Seigneur de venir vivre en nous. Si vous l'avez reçu, c'est lui qui doit vivre en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, parce qu'on est encore dans un corps de chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais mon corps, qui a tant d'importance, hein, le corps, c'est la partie visible de mon être, c'est ce que vous voyez, c'est là qu'habitent les sens. Si Dieu habite dans l'esprit, si le Seigneur habite dans l'âme, qu'est-ce qui habite dans notre corps? Ce sont nos sens. Et pendant bien longtemps, ce sont toujours nos sens qui nous ont dominés. On est devenu esclave de nos sens, de ces cinq sens. Mais quand l'œuvre de Dieu se fait, le Saint-Esprit prend possession de notre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et au lieu que ce soit vos sens qui vous dirigent, c'est l'Esprit qui domine vos sens. Vous ne pouvez pas vous-même contrôler vos sens. Mais si vous vous abandonnez au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va mener la guerre contre la chair. C'est une puissance surnaturelle qui va vous posséder si vous vous laissez posséder. Hein? Parce que Dieu n'est pas un violeur et il ne violente personne. Mais c'est pourquoi il vous demande qu'on retour à ses immenses compassions, puisque nous sommes tous coupables, mais qu'à tous il nous fait grâce, eh bien, qu'en retour à cette grâce, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Notre corps, notre être tout entier, esprit, âme et corps. Et alors, le Dieu tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit, vient prendre possession de l'homme tout entier, comme je vous l'ai déjà montré ou expliqué dans une étude que nous avons faite sur ce sujet. Alors, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, c'est cela, les vrais motifs de la consécration totale de notre vie à Dieu, c'est de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que si c'est simplement un commandement religieux, il faut offrir son corps en sacrifice. Si c'est la religion qui vous demande cela, vous ne pourrez jamais. Mais si touché profondément, bouleversé par l'amour incommensurable de Dieu, qui malgré tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons pu faire dans notre corps, eh bien, nous a pardonné, eh bien, ce corps qui est formé de membres, qu'est-ce que nous allons faire de ces membres? Qu'est-ce que nous faisions de nos membres quand nous en avions nous-mêmes la disposition? Avec quoi est-ce qu'on pêche? Avec nos membres. Que ce soit la langue, que ce soit les mains, que ce soit les pieds. Où marchons-nous? Que touchons-nous? Que faisons-nous? Que pensons-nous tout cela? Eh bien, le chapitre 12 des Romains nous ramène à quel chapitre des Romains? Au chapitre 6, où il est dit que, quant à notre vie passée, eh bien, nous, la mort de Christ est devenue la nôtre. Quand Jésus est mort, il n'a pas seulement pris vos péchés, comme vous le savez, ça c'est très facile de comprendre, ah, Jésus a porté nos péchés. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il vous a pris. De sorte que, dans la mort de Jésus, qu'est-ce qui est mort? Le vieil homme. Vous-même, votre ancienne manière de vivre, elle doit avoir pris fin où? À la croix, dans la mort de Christ. Et comment est-ce qu'on souligne qu'on a compris cette vérité? Par le baptême, qui est notre ensevelissement avec Christ dans sa mort. C'est pas au moment du baptême que cela se fait, mais nous reconnaissons que quand Christ est mort, nous aussi nous sommes morts. Et que si lui est mort, c'est parce qu'il nous représentait devant Dieu. Et si Dieu a détourné sa face de quelqu'un un jour, c'est de qui qu'il l'a détourné? C'est de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De sorte qu'il ne détournera jamais sa face de vous, il l'a détourné de son Fils. Mais pour quelle raison? Parce que vous y étiez. Alors de là, il a détourné sa face. Mais c'est son Fils qui a reçu la condamnation. C'est pourquoi quand je dis Dieu est-il responsable du péché, dans un sens, il nous montre qu'il a pris, lui, la responsabilité du péché, et que il ne nous condamnera pas parce que nous sommes coupables. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. C'est quelque chose qui est adorable. Il nous fait grâce. Alors, quand je comprends cela, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de mes membres maintenant? Oh, je suis sauvé maintenant. Mais pour vivre ma vie, pour vivre comme avant, mais en pouvant dire, je suis sauvé. Non. Je suis sauvé, ça doit se manifester par une existence nouvelle. Et alors, ici, c'est appelé un sacrifice vivant, comparé au sacrifice qu'on rendait dans l'Ancienne Alliance, qui était des sacrifices de victimes mortes. N'est-ce pas? Nous nous présentons comme un sacrifice vivant. Ces membres, ils appartiennent maintenant à qui? À Dieu. De sorte que, c'est pour cela que Jésus nous dit que quoi que nous fassions, et l'apôtre Paul le souligne aussi, en parole ou en œuvre, nous devons faire toutes choses comme pour le Seigneur. La tâche la plus humble, parce que nous devons tous avoir une occupation, un métier pour gagner notre vie, mais ce métier, on ne le fait plus comme le fait le monde. On est consciencieux, on cherche à manifester que notre vrai patron, c'est le Seigneur. Et qu'on ne fait plus les choses pour un homme qui est peut-être désagréable, qui a un mauvais caractère, qui n'est peut-être pas très juste, mais on souffre ces choses pour la justice. C'est pourquoi c'est vraiment un sacrifice. Je présente mon corps en sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant, mais qui est saint et agréable à Dieu. Ces membres, je les livre au Seigneur, et non plus aux péchés qui m'amèneront à commettre l'iniquité. Ces membres, je les livre au Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu peut se servir de vous. Il peut se servir de vos mains, il peut se servir de vos pieds, il peut se servir de vos yeux pour regarder dans ce monde, de vos oreilles pour écouter, de votre cœur pour aimer. Quand Dieu a voulu paraître comme homme sur la terre, il lui a fallu un corps. Ce corps a été formé dans la Vierge, dans le sein de la Vierge Marie, eh bien, il lui faut encore maintenant des corps pour qu'il soit vu Et les chrétiens, pendant l'absence du Seigneur, c'est à eux de manifester quelque chose de la vie de Jésus. Parce que pendant que le soleil, qui est le Christ, est couché, eh bien, qu'est-ce qui répand la lumière sur la terre? C'est la lune. Mais la lune, est-ce qu'elle a une lumière propre?
Non.
Elle reflète quoi? La lumière du soleil. Alors, si nous, nous avons compris cela, notre lumière, c'est celle du Seigneur. Nous ne nous glorifions pas d'avoir une lumière personnelle. S'il y a un peu de lumière dans ma vie, elle vient de qui? Du Christ. Et alors, il faut avoir nos yeux fixés sur lui. Alors, vous voyez, la vraie consécration, eh bien, elle vient en réponse aux compassions de Dieu. Il m'a tellement aimé que maintenant, je lui appartiens en propre et que je lui dis, fais de moi ce que tu voudras. Et dans l'occupation que vous pouvez avoir, vous pouvez demander à Dieu de vous donner tout ce qui est nécessaire pour que vous ayez un témoignage authentiquement chrétien et que vous soyez l'image du Christ là où vous vous trouvez. Ça ne va pas vous amener des facilités nécessairement, ça va vous amener de la moquerie, ça va vous amener peut-être de la persécution, mais vous serez agréable à qui? À Dieu. Et vous entasserez par votre comportement qui n'est pas le même que ceux des gens du monde, vous entasserez sur votre patron ou sur votre professeur, qu'importe, des charbons ardents. Il verra que vous n'êtes pas comme tout le monde. J'ai entendu un grand professeur qui était le maître d'un de mes fils, qui est à Lausanne, eh bien, qui disait, il se disait athée, mais il avouait, il me disait, j'ai quand même vu la grâce de Dieu. Et il me parlait de personne. J'ai vu dans la vie de ces gens la grâce de Dieu. Un athée peut dire cela, parce qu'il n'y a pas de vrai athée, au fond. J'ai vu la grâce de Dieu. Eh bien, c'est à nous d'être la manifestation de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Mais pour que le monde voit cela, bien, il nous faut peut-être passer par certaines épreuves. Et quand le monde voit qu'on ne réagit pas de la même manière que tout le monde, eh bien, là, il commence à se poser des questions. Ces gens ont quelque chose, puis il faut arriver à ce qu'ils comprennent que nous avons quelqu'un. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas des délaissés. C'est cela notre service intelligent. Parce que vous savez, nous n'étions pas intelligents. Il est dit dans Romains 3 qu'il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Personne qui recherche Dieu. L'intelligence selon les Écritures. L'intelligence selon Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Vous connaissez la définition de Job, chapitre 28. Se retirer du mal. C'est cela l'intelligence. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Et la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, voilà la sagesse. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Eh bien, un culte vraiment intelligent, un culte raisonnable, c'est non seulement d'apporter des louanges au Seigneur, de chanter des cantiques dans l'heure du culte, mais c'est, lorsque nous nous souvenons de la mort du Seigneur, de lui dire « Prends mon corps ». Et c'est discerner aussi dans tous mes frères le corps du Christ. Non pas dans le pain et le vin, mais dans mes frères, le corps de Christ, et dans mes frères, la vie du Christ, parce que le sang, c'est la vie. Ça donne une toute autre dimension à l'Eucharistie, ça donne une toute autre dimension justement au repas du Seigneur, qui sera l'objet de notre étude en mars, en février, Dieu voulant, l'année prochaine. Eh bien, que le Seigneur nous parle. Ne vous conformez pas à ce siècle, donc à ce monde, qui est appelé là ce siècle qui passe, ce siècle présent. Et pourtant, qu'est-ce que nous faisons? La plupart du temps, on fait comme tout le monde. C'est ça, se conformer à ce siècle. On n'est pas capable de faire comme les autrement que comme tout le monde. Tout le monde le fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Alors, il n'y a plus de contraste. Vous pouvez multiplier les traités d'évangélisation, vous pouvez multiplier les réunions d'évangélisation. Tant que le monde ne voit pas ce contraste, eh bien, nous n'avons pas beaucoup de puissance. Il faut que le monde se rend compte que nous sommes un peuple d'étrangers et de voyageurs sur la terre. Soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence, elle était stupide. Je vous ai dit que un jour, j'étais dans une assemblée, il n'y a pas si longtemps, il y avait un ou deux peut-être de nos frères qui sont ici, qui s'y trouvaient et qui peuvent confirmer la chose. Une jeune femme s'est levée en entendant une parole biblique lue par un frère et a dit « Combien c'est vrai, mon cœur explose, combien c'est vrai, c'était, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. » Ce frère avait lu juste ce passage, sans le commenter. Mais elle, c'était comme une explosion. Elle dit, Seigneur, combien c'est vrai, mon cœur explose. J'étais assez imbécile. Et vous savez, j'ai bien aimé ce mot dans un culte, parce qu'on n'entend pas souvent. Hein, c'est pas une redite. Mais c'était du vrai. Hein. J'étais assez imbécile pour creuser moi-même ma fosse, malgré toute mon intelligence. Malgré toutes mes facultés, j'avais creusé ma fosse. Et c'est toi qui m'en as sorti. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché. C'est toi qui m'as cherché dans la fosse que j'avais moi-même creusée. Mais moi, je trouve que c'est ça l'action de la parole. Quand on entend la parole, on dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Et j'étais dans cet état. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, il doit y avoir un changement. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement ou de votre intelligence afin que, quelle est la conséquence? Vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Alors, voilà la question. Est-ce que nous sommes en relation avec Dieu? Est-ce que nous avons vraiment ce désir? Que ce soit sa volonté qui s'accomplisse pour nous. Parce qu'une fois qu'on est au Seigneur, on doit discerner que ce qui est le meilleur pour nous, c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons? Non, c'est ce que lui veut. Comprenez-vous? Là, on ne se trompe jamais. Parce que si j'avais pu accomplir tous mes désirs, je ne serais pas ici. C'est toujours ce que Dieu veut qui est pour nous le meilleur. Ça ne nous paraît pas d'abord agréable peut-être, mais c'est agréable à qui? À Dieu. Et pourquoi ça lui est agréable à lui? C'est parce qu'il m'aime assez pour vouloir mon bien. Tandis que moi, qui crois que je m'aime, au fond, je fais le contraire. Je fais tout ce qui est contraire à mon bien. Quand par exemple, je me laisserai aller à la gloutonnerie parce que j'aime tel plat, qu'est-ce qui m'arrive? Une indigestion. Oh Seigneur, pourquoi est-ce qui m'arrive? Nous sommes des stupides.